Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du rendez-vous des audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Samia. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
Avec plaisir.
Alors, je t'ai invité car tu es thérapeute depuis un an et demi. Tu connais très bien les sujets de l'échec et des croyances limitantes.
Oui.
J'ai voulu faire ce podcast avec toi car je parle des échecs avec des entrepreneurs, leur retour d'expérience, etc. Mais j'avais vraiment envie de rencontrer une personne experte dans ce sujet, une personne comme toi qui pourrait nous apporter les clés pour accepter l'échec, comment s'y prendre, comment avancer, voilà, pas perdre espoir, voilà, et trouver l'énergie positive, quoi. Donc je vais te laisser te présenter en quelques mots.
Alors moi c'est Samia, j'ai 32 ans, bientôt 33, mais je garde encore mes petits 32 ans, ça me va bien. Je suis thérapeute en soins énergétiques et en accompagnement sur les libérations des schémas et des mémoires émotionnelles depuis un an et demi. Mmh. Alors, je me suis formée parce que j'ai moi-même eu l'occasion de pouvoir vivre ces thérapies à un but personnel et ensuite professionnel. Ça m'a tellement apporté que je me suis dit, mais je vais partager tout ça avec toutes les personnes que je connais, quoi.
Et moi, je partage ça avec toutes les personnes qui nous écoutent.
Voilà.
Alors, l'échec, c'est un vaste sujet. Je crois que t'aimes pas trop ce mot, en fait.
Non, mais pour moi, en fait, l'échec, c'est un concept imaginé par notre société.
Oui.
C'est soit tu réussis, soit t'échoues. Donc, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, puisque de toute manière, tout ce qu'on entreprend, même si ça n'aboutit pas au résultat qu'on attend, eh bien, pour moi, c'est toujours une valorisation, un travail de longue haleine. Et qui n'a peut-être pas abouti au résultat escompté, mais il y a eu du travail. On a évolué personnellement, certainement professionnellement, pour les gens qui se lancent à leur compte. Et pour moi, c'est soit je gagne, soit j'apprends. Donc, dans tous les cas, pour moi, c'est une forme de réussite.
Ouais, donc à la place de dire l'échec, on pourrait dire quoi alors ?
Alors moi, j'appelle ça les cadeaux mal emballés de la vie.
C'est vrai ?
Oui.
C'est trop chou.
Voilà. Donc je pense que ça reste des cadeaux. Même si c'est mal emballé, même si, voilà, je pense que sur notre route, sur notre chemin de vie, il n'y a pas que des routes droites, il y a des routes un peu sinueuses, etc., mais qui aboutissent toujours finalement à un épanouissement personnel. Et il faut juste trouver sa voie.
D'accord, donc des cadeaux mal emballés.
Voilà, de la vie.
Tu as pointé quelque chose du doigt quand on s'est vu la première fois, tu m'as dit que je disais beaucoup cette phrase « les échecs font avancer ».
Oui.
Et en fait, c'est vrai que ça m'a travaillé. Parce qu'en fait, tu m'as dit que c'est comme si j'appelais les échecs.
Oui, constamment. Parce que pour toi, en fait, avancer, ça passe pas sans échec. Et donc, du coup, comme tu nourris cette croyance-là qui est un schéma limitant, donc en fait, tu appelles à l'univers à rencontrer que des échecs pour pouvoir avancer. Et donc, du coup, en fait, tu es en mode guerrière tous les jours, quoi.
Donc c'est une phrase que je ne dirai plus. Et en fait, on n'est pas les seuls. Je suis pas la seule à dire cette phrase. Mm-hmm. Je sais pas si c'est on nous a appris ça plus jeune ou.
Je pense que au fur et à mesure, on se rend pas bien compte des mots qu'on utilise pour définir telle ou telle chose. Aujourd'hui, c'est devenu un petit peu on utilise les mots qui nous tombent dessus. Il y a de moins en moins de personnes qui lisent, donc du coup, effectivement, le langage est moins développé. Et effectivement, le poids des mots est important.
C'est ça que moi, je me suis dit, à partir de là, je ne dirai plus cette phrase, en fait. Parce que je n'ai pas envie d'avoir échec sur échec. Enfin, c'est fatigant, c'est lourd à porter, c'est la remise en question, remettre tout à zéro, recommencer. Donc, merci de m'avoir dit. En fait, je disais ça dans le sens où ça me fait grandir, ça me fait grandir, ça me fait grandir.
Mm-hmm.
En fait, c'est...
Tu peux grandir sans avoir forcément d'échec.
C'est ça. Et en fait, on est dans cette... Je sais pas si c'est un peu aussi ce qu'on lit sur Internet, etc. Tu vois,
ouais, il y a à boire et à manger sur Internet. J'ai envie de dire, aujourd'hui, tout le monde se représente un peu comme coach de vie, coach professionnel, coach par-ci, coach par-là. Mais je pense que, il faut vraiment se centrer sur soi, sur ce qu'on dit et s'écouter parler. Alors, pas s'entendre parler, mais s'écouter parler. Et effectivement, après, on peut bien se rendre compte des mots qu'on utilise. En thérapie, j'ai parfois des personnes qui me parlent de leur maman les a laissés aux grands-parents parce qu'ils n'arrivaient pas à subvenir à leurs besoins. Donc voilà, c'était un moyen pour eux d'aller travailler pour les parents et de l'enfant d'être gardé par les grands-parents. Mais du coup, quand on commence à parler d'abandon, le mot est tellement fort que les gens rejettent complètement. Mais en fait, c'est comme si vous laissiez un enfant devant la porte d'une église. J'ai laissé mon enfant devant la porte de l'église. Donc ça revient à dire, oui, j'ai abandonné mon enfant. Sauf que le poids des mots est important et la valeur des mots est importante. Et les gens se refusent à se dire, non, mais c'est pas de l'abandon, c'est pas du rejet, c'est pas de l'humiliation que j'ai vécue. Ils rejettent complètement ça parce que on préfère adoucir les choses. Mais en réalité, dans l'univers et dans les énergies, on ne comprend pas la nuance.
D'accord.
Un mot est un mot et pour définir quelque chose de bien précis.
Oui, donc quand on réussit pas quelque chose, ça sert à rien de dire échec,
oui.
Comme ça.
Non, c'est pas un échec pour moi, c'est il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc il y a peut-être alors si quelque chose ne fonctionne pas, moi je dis toujours c'est pour une bonne raison. Si on réussit quelque chose, c'est pour une bonne raison. Voilà, si on a eu le résultat qu'on a eu, c'est que ça devait se passer comme ça. Autrement, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à retravailler derrière.
C'est ça, et des fois on se rend compte que avec des clients qu'on voulait, ça a pas marché. Et des fois, je me dis, mais si ça n'a pas marché ou j'ai pas signé avec eux, c'est peut-être qu'il y avait une raison, en fait. Peut-être qu'on ne se correspondait pas. Peut-être que si on avait travaillé ensemble, il y aurait eu des divergences d'opinion. Enfin. Et des fois, quand on force, c'est encore plus compliqué. Je ne sais pas si tu vois
Quand
ce que
on risque, le risque de forcer les choses, c'est souvent d'arriver à un point de frustration. C'est-à-dire se dire, je ne me suis pas écoutée, ça devait se passer comme ça et finalement, j'ai été au-delà. Donc, mon intuition, finalement, je ne l'ai pas écoutée. Et puis, je me retrouve confrontée à un problème avec ce client-là en me disant, c'est une perte d'énergie, c'est une perte d'argent, c'est une perte de travail. Enfin, voilà. Et se dire, la prochaine fois, je m'écouterai un peu plus. Aujourd'hui, les gens devraient s'écouter un peu plus.
Ouais, c'est vraiment un conseil que tu donnerais?
Oui. Si on ne le sent pas, pour X raisons, on n'y va pas. C'est ce que je disais, c'est que souvent notre intuition, c'est notre âme qui nous parle, quoi. Disant attention, signal d'alarme, c'est notre inconscient qui se met en éveil. Attention, ça ne va pas. Toi, t'es pas dans une position consciente de percevoir cette alarme. Mais voilà, je t'envoie un ressenti. Essaye de le garder et d'en faire quelque chose de bien.
Mais un entrepreneur m'avait dit une fois, c'est Marie-Elisabeth. De 360 North, elle me disait que quand on sent au fond de soi cette boule qui fait « non, on n'y va pas, il ne faut vraiment pas y aller ». Donc oui. Je pense que c'est un peu l'intuition qu'elle a, elle.
C'est ça. Après, ça se manifeste de différentes façons. Mais effectivement, la boule au ventre en se disant « oula, je ne le sens pas trop ». Ou par exemple, on a dit « ok » pour un client parce que finalement, on s'est résigné à dire « oui ». Et finalement, le client se dit « ah, finalement, j'aurais mieux fait de dire non ». Mais là, il est déjà peut-être un peu trop tard parce qu'on s'est déjà un peu engagé. Sauf que on peut toujours revenir en arrière et voilà, c'est pas bien grave.
Il y a aussi autre chose que tu m'as...
Décidément, je t'en ai dit des choses.
Ouais, mais franchement, tu m'as dit deux phrases. Mais en fait, j'ai regardé une vidéo et ça m'a fait penser à ça. C'est la personne, elle disait comme toi, arrêtez de dire les petites choses, les petits barbecues, les petits voyages, les petits restos. Et c'est ce que je dis aussi. Et en fait, ça m'a fait réfléchir en mode... Mais on est aussi beaucoup à dire ça, en fait, je suis pas la seule. Donc tu m'avais dit quoi, fallait vivre les choses plus en grand.
C'est ça, c'est qu'on a tous tendance à regarder petit parce qu'on n'ose pas rêver grand. Alors quand on rêve grand, on dit oui, mais c'est juste pas possible, descends ton nuage, tu rêves trop. Alors que pas du tout. Je pense que tout être humain sur Terre a le droit de rêver et aussi grand qu'il veut.
Oui, de ne pas avoir de limite, en fait.
Mais c'est ça, parce qu'en voyant les choses petites, finalement, on reste petit. Alors, je ne dis pas grand pour se donner un genre ou quoi. C'est vraiment grand dans ce qu'on a envie de faire. C'est voir grand parce qu'il y a une vision à long terme qui est intéressante quand on est chef d'entreprise ou même quand on est salarié. Je veux dire, quelqu'un qui arrive dans une boîte et qui a envie d'évoluer, il voit grand. Et je ne sais pas qui pourrait lui dire le contraire. Enfin, on n'a pas le droit de dire aux gens de ne pas rêver grand.
Ouais, si on pense petit, on a des actions petites, des résultats petits. Quoi.
Exactement. Alors pour d'autres, ça peut paraître quelque chose de mignon.
Ouais.
Mais enfin, c'est mignon un temps, quoi. Parce que quand on vit que des petites choses, à un moment donné, on a aussi envie de vivre grand.
Oui, c'est possible, en fait. C'est pas de l'égocentrisme.
Pas du tout.
Parce qu'il y en a qui le voient mal quand on dit « ouais, moi je veux... » Quand je dis « ouais, mon podcast, je veux qu'il marche, je veux que tout le monde l'entende », et c'est comme ça. Et il y a des gens qui peuvent se dire « Ah ouais, non, la meuf, elle s'y croit ou... ».
Souvent, ces gens-là, c'est ce que j'appelle des casseurs de rêves. Ils te renvoient en fait quelque chose qu'ils portent en eux. Peut-être qu'ils veulent aussi se lancer, ils n'osent pas parce que justement, ils voient les choses un peu trop petites. Et parce que pour eux, il y a d'autres personnes derrière qui ont cassé leurs rêves. Et donc, aujourd'hui, inconsciemment, ils cassent les rêves des autres. Donc, j'ai envie de dire pour ces personnes-là...
Trouvez vos rêves.
Bah oui, posez-vous, réfléchissez un peu et puis surtout ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse.
C'est ça. Après, je pense à un mal-être aussi. On a peut-être tous été un peu casseurs de rêves pour des gens.
Je ne sais pas si on l'est tous. Casseurs de rêves, non. Je dirais pas ça. Enfin, je sais pas toi si toi t'as été dans cette position-là, mais moi pas trop.
Désagréable des fois et me dire c'est pas bien ce que tu fais, tais-toi ou voilà. Je sais pas comment dire ça. Genre peut-être. Vu que je suis pas dans les bottes des gens, à une époque, peut-être que je me permettais de donner mon avis, en fait, alors que je devais pas le donner, en fait. Ou, si je le donne, c'est de façon, ouais, vas-y, mais regarde ça quand même pour faire mieux, enfin...
Après, il y a donner son avis et casser les rêves des autres.
Ouais.
Quand tu donnes ton avis, voilà, c'est soit constructif, et puis il le prend en compte, et puis voilà, si c'est un avis qui lui parle pas, et il peut aussi très bien le laisser de côté. Après, t'as des gens qui sont vraiment casseurs de rêves, en disant, mais non, mais ça va pas, t'es folle, t'arriveras jamais, mais dans quoi tu te lances, enfin bon, voilà, tout ce que j'ai eu le droit, moi, quand j'ai quitté la recherche pour ouvrir un salon de coiffure.
Ouais, parce que t'es partie quand même d'un milieu opposé. Très
Oui, mais je savais où je voulais aller.
Ouais.
Donc pour moi, les personnes qui me transmettaient leur angoisse, leur anxiété, alors je dis pas que parfois ça ne m'a pas atteint, mais j'en ai fait vite abstraction en me disant, mais Samia, t'as une vision des choses. Et je me rappelle d'une prof qui me disait ça au lycée à Jean Rostand, qui me disait, mais tu sais Samia, si tu veux quelque chose, même si ça prend 10 ans, et si tu le veux toujours au bout de 10 ans, bah tu l'auras.
Enfin voilà, qu'il faut pas abandonner tous les 3 mois, refaire quelque chose d'autre parce que ça marche pas, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose que les gens font énormément. Ils commencent un projet, ils voient que ça ne marche pas, ils ne persévèrent pas, et au bout de 3 mois, ils changent de projet, ça ne persévère pas, enfin,
moi, je dis,
il n'y a pas les résultats.
Oui, je dis souvent, tout ce qui vaut la peine prend du temps. Tout ce qui vaut la peine prend du temps. Si au bout de 3 mois, tu décides de lâcher ton truc, alors c'est que tu ne le vis pas. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, ça ne marche pas? Ce n'est pas parce que tu n'as pas 3000 euros par mois que ça ne marche pas. Quand je me suis mise à mon compte en janvier 2019, j'ai commencé à percevoir des revenus corrects à partir de septembre 2019. Donc voilà, je me cherchais aussi, j'avais besoin de me créer une image et puis d'avoir, de créer une palette de soins qui me convienne et qui convienne à mes clients. Et j'ai défini en fait mon client idéal. Et c'est ce que beaucoup ne font pas. Ils veulent plaire à tout le monde, sauf qu'on ne peut pas plaire à tout le monde.
Moi, c'est ce que j'ai défini aussi il n'y a pas longtemps pour mon entreprise.
Voilà.
C'est super important en fait, c'est le basique métier.
Bah oui, comme ça, tu sais à qui tu vas t'adresser. Et tu peux pas t'adresser à tout le monde parce que ça ne parle pas à tout le monde, ton projet. Il peut parler à beaucoup de personnes, mais à d'autres, pas du tout. Et ça, il faut l'accepter. Ça fait partie du jeu.
Mais tu as les meilleurs résultats quand tu as ta propre clientèle qui se retrouve dans ta presta et ainsi de suite, quoi. Donc ça fait
Bel échange. En définissant mon client idéal, j'apporte à moi et j'amène à moi des personnes qui sont comme moi, finalement. Et qui ont vécu aussi les mêmes choses que moi. Donc, ça me permet aussi de les accompagner encore mieux dans leur démarche d'épanouissement personnel, de développement personnel, dans tous les aspects de leur vie.
Toute cette période, toi, que tu as mis en place pour trouver le bon client, je pense que tu es passée par des hauts et des bas.
Oui, mais... Alors, des bas, je ne sais pas trop, mais oui, je me suis aussi posé la question de savoir est-ce que c'était pas trop long, etc. Et finalement, je me disais, mais non, c'est ce que tu veux faire. Ça te prend aux tripes. T'es faite pour ce métier-là, donc il faut juste que tu te poses et que t'arrêtes de te polluer l'esprit avec des questions qui ne te font pas avancer, genre est-ce que ça va plaire, est-ce que ma carte de visite est super belle, est-ce que mon site internet va me générer du... Non, en fait il faut arrêter avec ces questions parasites et se concentrer sur l'essentiel. Qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux communiquer à ta clientèle? Et une fois que t'as tout ça et que t'as défini en plus ton client cible, bah c'est facile. Après, tu prends le train et puis tu t'arrêtes jamais.
Et c'est, tu penses que c'est ce qui manque aux gens ? De ne pas être défini l'essentiel et avoir trop de questions parasites qui les bloquent ?
Mais clairement, mais parce qu'aujourd'hui, à l'école, on ne t'apprend pas à être chef d'entreprise, à créer ton affaire ou même à simplement travailler sur toi. L'estime de soi, la confiance en soi, c'est des choses qu'on n'apprend pas.
Ouais, au contraire, on nous met tous en concurrence, on nous note,
voilà.
On nous juge. Enfin, moi... Je sais que j'étais pas une élève très appréciée parce que moi j'étais objectif 14 ans, je montais ma boîte. Donc j'avais pas une résonance avec l'école et les profs ils m'accordaient pas d'importance ou limite t'es derrière c'est bien, de toute façon tu sers à rien. Et en fait ils sont pas là à nous prendre pour notre juste valeur en fait. On est 30 dans une classe et c'est tout le monde pareil ou c'est pas possible quoi. Donc ouais, on n'apprend pas les valeurs de base en fait
En
de
fait, les valeurs
respect,
humaines.
d'empathie,
C'est ça.
de... on est tellement dans la concurrence que même adulte on l'est.
Oui.
Et en fait, on n'arrive pas à se créer, en fait, même en tant que personne. On n'a pas notre singularité, j'aime bien ce mot. Qu'est-ce que tu dirais à toutes les personnes qui veulent se lancer et voilà, qui ont peur parce qu'ils ont toutes ces questions parasites?
Bah déjà, savoir pourquoi vous le faites. Pourquoi vous voulez monter votre boîte, pourquoi vous voulez créer quelque chose qui vous appartient et le communiquer aux autres. Pourquoi? En fait, votre pourquoi est important. Au début, quand on m'a posé la question, on m'a dit, mais pourquoi? Mais parce que je le vis, quoi. Parce que c'est mon truc, parce que je le sens, parce que je ne me vois pas autre. Hein, j'ai fait beaucoup de métiers avant d'arriver à thérapeute et tous mes métiers m'ont servi, en fait. C'était sur mon chemin de vie pour que justement aujourd'hui, je puisse avoir un épanouissement personnel et professionnel ben, qui est à la hauteur de ce que j'ai mis en œuvre en amont, quoi.
Il y a des personnes qui ont l'impression d'avoir un parcours un peu sinueux avec échec sur échec. Après, c'est leur opinion, hein, ils sentent ça, l'échec sur l'échec. Mais comment on peut se sortir de ça et plus les attirer, hein, tu vois,
Les
plus
échecs?
ouais. Enfin, les cadeaux mal emballés. Et de trouver. Enfin, je pense que c'est avec le temps, mais peut-être développer son sixième sens.
Bah déjà se dire qu'est-ce qu'on considère comme un échec. Là aussi, quelqu'un qui ferme sa boîte, pourquoi? Est-ce qu'il y a eu un problème de gestion? Est-ce qu'il y a eu un problème de motivation au moment? Est-ce que voilà, est-ce que c'est pas la conjoncture qui a fait que bah, ça ne fonctionne plus? C'est de se poser les bonnes questions et d'être accompagné. C'est souvent les chefs d'entreprise, quand on se lance, on est seul, à part l'expert comptable, le banquier, qui de temps en temps vous appelle pour vous dire, eh oh là, on est un peu à découvert, ça va pas le faire. Voilà, on n'a pas grand monde. La chambre des métiers, de temps en temps, on lui repose des questions, ils répondent, et puis après, ils sont vite limités. Faut dire ce qui est, hein, c'est comme ça. Après, s'adresser à qui? Nos amis, bon,
Ils
ils
comprennent pas.
vivent, mais ils comprennent pas, ils vivent pas forcément les mêmes choses que nous. Enfin, voilà, c'est très embêtant. Et de se dire, bon, bah voilà, on n'est pas seul, alors on essaye de se regrouper entre chefs d'entreprise, quand c'est possible, et parler à des personnes qui ont vécu bah, des difficultés. Voilà. Nous, on a créé notre boîte avec ma sœur, notre salon de coiffure, ça n'a pas marché tout de suite. 3 mois après, on avait voulu fermer. Non, mais c'est une
Ouais,
réalité.
ça.
Aujourd'hui, bah, on cartonne et on est à 4 ans d'activité. Donc, il faut parler, il faut aller voir les personnes qui peuvent vous aider. Parfois, on a tellement la tête dans le guidon qu'on ne voit pas les choses de manière objective et avec le recul nécessaire. Et donc, du coup, des fois, c'est juste un petit quelque chose, un petit grain de sable qui est juste à balayer et puis bah, tout repart.
Et toi, t'as souvent des personnes qui viennent te voir pour ça? Des entrepreneurs qui sont perdus
Oui.
après un échec ou qui se posent plein de questions et qui trouvent pas les réponses?
Oui, ou alors de personnes où l'activité ne démarre pas, n'est pas boostée. Et donc, quand je leur explique que les choses peuvent arriver, que rien n'est impossible, qu'elles ont toutes les ressources nécessaires pour y arriver, faut juste trouver lesquelles. Et puis les mettre à contribution pour une chose particulière, pas se disperser, pas de perte d'énergie, et arrêter de se polluer l'esprit, en lâcher prise.
Mais c'est dur le lâcher prise.
Oui, c'est
Parce
dur,
que les
mais...
gens, ils ont peur qu'on va tomber en fait si on lâche
Mais
prise sur
souvent,
les
on
choses.
lâche prise, les gens sont souvent dans le contrôle. Et le lâcher prise, c'est pas perdre le contrôle. Au contraire, le lâcher prise, c'est justement accueillir les choses autrement.
J'ai l'impression même que le lâcher prise, on se force à lâcher prise, donc ça fait un cercle un peu vicieux.
Alors qu'on devrait être dans un cercle vertueux. Bah, le lâcher prise est important, mais c'est facile à dire, je sais. Je l'ai moi-même vécu, hein, dans le contrôle. Et puis quand j'ai vu... Petit à petit, c'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain, le lâcher prise. Dire le contraire, ce serait mentir. Le lâcher prise, ça s'apprend. C'est une habitude à prendre au fil des jours, un petit peu, un petit peu, un petit peu de lâcher prise sur certaines choses. Moi, maintenant, si la bouteille d'eau était à droite et pas à gauche, ça pouvait me gonfler. Alors que c'était une perte d'énergie inutile, puisque cette énergie-là, je la mettais pas à contribution pour faire autre chose. Donc voilà, c'est aussi avoir des priorités.
Comment on peut changer nos pensées par rapport aux difficultés qu'on a au quotidien ou les pensées polluantes?
Bah déjà, s'écouter parler.
Ouais, comme on a dit avant,
Dans la
quoi, c'est vraiment
discussion, il y
ça.
a beaucoup, dans ce qu'on dit, il y a beaucoup de choses qu'on porte. Hein. Dis-moi ce que tu portes, je te dirai ce que tu vis. Hein. Donc voilà, je sais que, bah, par exemple, toi, tout voir en petit, bah, du coup, t'es petit. T'es
J'arrête
tout
de
petit.
voir en petit.
Voilà. Donc du
C'est
coup, c'est...
résolution directement, tu me l'as
Mais
dit, j'ai fait. Ok.
c'est ça, c'est que bah, je t'ai écouté parler. Et c'est très important, l'écoute. Et tu pourras certainement leur dire à des personnes que tu rencontreras et qui auront le même discours que toi, en leur disant bah, attention, là par exemple, voilà, c'est juste faire attention à ce qu'on dit, faire attention à ce qu'on pense aussi, et pas laisser l'émotion vous guider. Parce qu'on a le contrôle, le lâcher prise c'est important pour éviter que les émotions prennent le pas sur nos envies et sur notre vie.
T'aides les gens à transformer leurs croyances aussi.
Oui, alors du coup, bah oui, une personne qui vit dans le combat continuellement, pour elle, la vie est un combat, bah, c'est de savoir bah, pourquoi elle dit ça. Pourquoi, bah oui, j'ai vu ma maman se lever tous les matins, aller travailler dur, de toute façon, le travail c'est dur, il faut travailler dur pour gagner sa vie. Donc voilà, toutes ces personnes-là seront confrontées à la dureté de la vie, mais parce qu'elles ont connu que ça. Donc l'idée, c'est de se dire, bah voilà, tu portes ça, tu veux autre chose, tu aspires à autre chose, mais tu ne l'as pas. Ben ouais, ben commence par te libérer parce que tu portes, parce que tu crois, parce que tu nourris.
Même l'argent, il y en a qui disent, ouais, l'argent, qui sont un peu méchants, qui maltraitent un peu les autres pour évoluer, etc. Et en fait, on dit que les gens qui voient l'argent comme quelque chose de négatif ne deviendront jamais riches.
Ben, c'est indéniable.
Voilà, c'est aussi quelque chose que j'ai appris en regardant des vidéos, etc., que ouais, moi j'ai un peu eu une éducation comme ça, désolée maman, papa, mais ouais, genre ouais, l'argent, nanana, nanana, quelque chose de malsain, quelque chose de mal vu.
Oui, mais parce que l'argent, bah encore une fois, dans notre société, c'est quelque chose qui est mal vu. Un chef d'entreprise, c'est forcément quelqu'un qui gagne bien sa vie.
Ouais, le parquet aussi.
Voilà, alors que pas du tout, on peut faire de l'entrepreneuriat et faire quelque chose avec des valeurs, des principes et des valeurs tout à fait respectueuses. C'est pas parce qu'il y en a qui ont travaillé longtemps pour faire de mauvaises choses avec l'argent que tout le monde est pareil. Les gentils, alors quoi, c'est tous des pauvres. Tu peux être gentil, mais t'as pas d'argent. Bah alors dans ce cas-là, t'es plus gentil. Mmh. Moi, je dirais que t'es un peu con, quoi. Non, mais clairement. Après, il y a, voilà, trop bon, trop con, hein. C'est oui. Ce qu'on dit toujours. La gentillesse, moi, je dis toujours, arrêtez d'être gentil, soyez vrai. La gentillesse, ça va jamais payer. C'est être vrai, authentique, parler vrai. Et puis laisser les autres aussi penser... ce qu'ils ont envie de penser. Et ne vous mettez pas à leur place. Par exemple, j'ai envie de te dire quelque chose, mais je sais que tu vas mal le prendre. Mais qui je suis pour penser à ta place ? Je t'envoie le message, et puis tu le réceptionnes comme tu auras envie de le réceptionner. Tu l'auras reçu, point. Voilà. Après, tout ce qui est en rapport avec l'argent, j'ai très bien gagné ma vie, j'ai aussi beaucoup manqué en étant à mon compte, parce que j'avais une vision aussi de l'argent qui était un peu biaisée. Aujourd'hui, je gagne bien ma vie. Je suis très contente que les choses aient pu évoluer justement avec le travail sur bah, mon rapport à l'argent, mais mon rapport aussi à tout ce qui est lié à l'homme, tout ce qui est lié à l'administratif, parce que bah, l'argent, c'est lié à toute la partie yang en énergie, donc au masculin. Donc du coup, se réconcilier avec toute cette partie masculine de notre corps nous permet de renouer avec l'argent.
Et c'est quoi la partie féminine ?
C'est la partie yin.
Ouais.
Donc tout ce qui est en lien avec la créativité, avec tout ce qui est les choses en lenteur.
Il y a quelque chose que j'ai entendu qui... Enfin moi je trouve ça un peu bizarre. Genre ouais, si on n'est pas dans la bonne famille, on ne peut pas réussir. Mais pas dans la famille du genre qui ont déjà de l'argent. Mais genre ce n'est pas au bon endroit... On peut pas tous réussir et je trouve ça un peu nul parce que tout le monde peut y arriver. C'est comme si on disait, ouais, t'as pas le bon schéma, tu peux pas y arriver.
Bah oui, mais ça c'est pour nous laisser un petit peu dans, entre guillemets, si je peux me permettre, dans ta merde monumentale, quoi. C'est des personnes qui n'évolueront jamais. Une personne qui est née dans un quartier, alors quoi, il réussira jamais.
Non, mais c'est un peu ça et en fait, on voit que si.
Mais c'est des raccourcis, oui. Et bien sûr. Mais les gens, c'est tellement ce qu'ils pensent que finalement, ils finissent par le transmettre à ces personnes-là et ces personnes-là finissent par le croire.
Mais est-ce que c'est une croyance hyper répandue ?
Bah bien sûr.
Genre, quand on voit quelqu'un des quartiers qui réussit, on fait waouh !
Mais il a une super famille.
Impressionnant.
C'est sûr qu'il n'a pas été. Il a été aidé. Enfin, voilà. Ouais, il y en a qui mettent même ça en cause. Mais enfin, bon, après, ils ont envie de croire.
Il y a aussi quelque chose. En France, le chômage, c'est le pire échec d'une personne, en fait. C'est hyper mal vu. Et en fait, le problème, c'est que quand on est au chômage, on n'a pas le moral. C'est dur, etc. Et moi, je trouve que le chômage, c'est plutôt une remise en question, en fait, ou une possibilité, en fait, de chercher sa personne, en fait, et peut-être se remettre en question, quoi. Enfin, je sais pas comment on pourrait aborder le chômage qu'on a eu face à un nouvel employeur, tu vois, en transformant ça, en disant, je sais pas si tu...
Bah, le chômage, pour moi, c'est... Alors, j'ai été au chômage, hein, ouais. Parce que... Enfin, au chômage. Ouais, j'ai été au chômage dans le but de mon entreprise, hein. J'ai été payée par Pôle emploi. Par Pôle emploi, pardon, pendant 2 ans. Là aussi, on a une image...
D'échec ?
D'échec pour les gens qui le voient comme un échec. Mais moi, je le vois comme une pause, en fait. Mm-hmm. Comme une pause qui nous permet, en fait, de nous recentrer sur ce qu'on souhaite faire. OK, ça n'a peut-être pas fonctionné dans une boîte, mais j'en ressors avec un bagage. Aujourd'hui, à moi de le montrer, d'en faire le meilleur, en fait, de garder le meilleur de ce que j'ai appris pour que je puisse apporter quelque chose à quelqu'un d'autre.
Parce que même planter une boîte, c'est hyper mal vu. C'est un échec aussi.
Oui.
Enfin, il y a tellement de choses, en fait, qui nous font penser à... Dès que ça marche pas, c'est un échec, c'est qu'on reste là-dedans, en fait. C'est vraiment français.
Ah, mais c'est typiquement français, parce que si tu vas dans d'autres pays, au contraire, on te dit, bah, plus t'as d'échecs, entre guillemets, échecs, et plus tu peux leur apporter des choses, parce que justement, ils n'auront... Moi, par exemple, en tant que chef d'entreprise, j'ai pas fermé d'entreprise encore. Peut-être que ça arrivera un jour, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça n'est pas le cas actuellement. Je ne sais pas par quoi on passe. Je ne sais pas, ça peut être aussi un manquement de ma part. Ça peut être un manquement de beaucoup, si bah, peut-être aussi des employés, si on est assujetti à avoir des employés dans notre boîte. Enfin voilà, il y a plein de facteurs qui rentrent en position. Et je pense que le fait que dans la société, on voit ça comme un échec, alors nous-mêmes, on le vit comme un échec. Alors que si on rebondissait sur ça en disant « Mais attendez, moi, j'ai appris beaucoup de ça. » je sais justement tout ce que je peux faire et tout ce que je ne dois plus faire. Et au contraire, pour moi, ça a été une sacrée leçon pour me relancer dans quelque chose d'autre. Mais si nous, on n'est pas convaincus par ça, comment peut-on convaincre les autres qu'on peut réussir ?
Là, c'est une expérience, quoi, qu'il faudrait valoriser.
Mais bien sûr. Mais bien sûr.
Même sur le CV, il faudrait mettre...
Mais bien sûr.
J'ai testé, ça n'a pas marché.
Ah bah, clairement.
Même en compétences...
Mais clairement. Et aujourd'hui, ben, tout l'enjeu de... Je dirais tout l'enjeu politique serait justement qu'on valorise tout ça et qu'on change petit à petit nos carcans sociétals, quoi.
Parce que même, je connais des gens, ils ont créé des boîtes, ça peut marcher. Ils recherchent un travail et ils font genre « Non, je me suis formée, etc. » Ils sont pas là à assumer. Ou même quand on ouvre une boîte et qu'on veut reprendre un travail un peu plus standard, les gens, ils regardent bizarrement en mode « Ouais, mais t'as été chef d'entreprise, pourquoi tu viens ?» etc. Enfin, on donne pas la chance aux gens.
Oui, mais on donne pas la chance. Enfin, moi, je pourrais pas donner la chance à quelqu'un, par exemple, qui vient et qui se dévalorise complètement devant moi. Maintenant, s'il me dit « Bah oui, écoutez, moi, j'ai eu mon entreprise, c'était quelque chose qui n'était pas pour moi. Voilà, j'ai testé, j'ai fait mes preuves, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, je me dis que je vais retourner dans le salariat parce que ça me convient et je me suis enfin trouvée. » Et là, je me dis, mais c'est génial, parce que le mec, en fait, il a un parcours qui est intéressant, qui est enrichissant, et puis il va nous en faire partager. Il va nous faire partager son expérience de vie. Et si nous-mêmes, on se met dans une position de victime en se disant, mais mon Dieu, j'ai perdu mon entreprise, je suis bon presque à rien, et puis en plus, je cache ça sous couvert de formation, à un moment donné, on n'est pas crédible non plus. Alors, il faut savoir ce qu'on veut.
Ouais, créer une bonne énergie avec des mots positifs en disant...
Mais clairement, valoriser tout ce qu'on fait dans la vie. Mais parce qu'on est des personnes enrichies, parce qu'on est des personnes intelligentes, on veut quelque chose, eh bien, on l'obtient que si on y met aussi toute notre énergie positive.
Ouais, et voir toutes les opportunités, les mettre tout en place.
Mais bien sûr. Moi, je pense qu'on peut faire tous les métiers du monde.
Ouais.
Chacun à différents niveaux. Mais je me suis toujours dit que... Si un jour je voudrais, par exemple, je sais pas moi, être agricultrice, eh ben, je pourrais.
Mais pas de limite, quoi.
Non, mais comme le jour où j'ai ouvert mon salon de coiffure, je suis pas coiffeuse. Ma sœur a le diplôme, etc. Mais voilà, le jour où on m'a dit je quitte la recherche pour aller dans un salon de coiffure, les gens me regardaient un peu bête en se disant mais elle a fumé celle-là.
Ouais, t'as fait tellement d'études.
Mais oui, mais c'est un gâchis. Alors que pas du tout. Aujourd'hui, ouvrir un salon de coiffure, ça a été la passerelle entre la recherche et la thérapie. Okay. Et aujourd'hui, ça m'aide.
Je pense pas qu'on fait des choses pour rien, de toute manière.
Ah mais non. Tout a un but précis dans la vie.
Ça, et des fois, la vie, elle te fout des petites claques pour te remettre bien, dans le bon chemin.
Bah, il n'y a pas de bon ou mauvais chemin.
Oui,
il y a le
sur
chemin,
ton chemin.
Voilà, sur ton chemin. Après, c'est à toi de prendre en main les possibilités qu'on t'offre, les opportunités, voilà. Si tu craches dessus, c'est sûr qu'après, il ne faut pas t'en vouloir. Il faut se dire, bon, voilà, j'ai pas sauté sur l'opportunité, j'étais peut-être pas prête aussi.
Oui, voilà, des fois, il y a des choses où ça ne se fait pas.
Voilà.
Parce que ça ne veut pas se faire.
Mais c'est ça. Mais je signe, je fais des devis à certaines personnes. Je leur explique que travailler sur soi, ce n'est pas simple. On va rentrer dans les profondeurs, on va parler de choses qui ne sont peut-être pas valorisantes pour eux. Et puis, je leur dis, il peut y avoir des pleurs pendant un temps, mais après, il y aura beaucoup de rire et d'épanouissement derrière. Mais voilà, il y a des personnes qui ne sont pas prêtes. Il y en a qui disent, je t'appellerai quand je suis dispo. Non, en fait, c'est quand tu seras prêt. C'est mieux. Parce que si tu es prêt, tu es disponible. En fait, il ne faut pas faire une thérapie ou voilà, s'engager dans ce genre de choses sans avoir de but réel. C'est-à-dire se dire, voilà, quel est mon objectif en voulant faire ça ? Je veux réussir ma vie professionnelle, je veux réussir ma vie sentimentale. Il y en a plein qui me disent, à la trentaine, on est dans l'âge de la trentaine, voilà, je suis célibataire, j'ai rencontré personne qui me convient, je suis désespérée, jamais je trouverai, j'aurai jamais d'enfant. Enfin, voilà. Déjà, en nourrissant tout ça dans un premier temps, avant de pouvoir rencontrer quelqu'un, il faut pouvoir se soigner soi-même.
Ouais, parce que c'est hyper négatif.
Voilà, penser ses propres blessures, personne ne peut nous rendre heureux par nous-mêmes. Il peut contribuer à votre bonheur, mais c'est tout. Mais il faut avoir une base en fait saine. Personne qui vient de mettre fin à une relation sentimentale ne peut pas se relancer dans une autre sans avoir pensé ses blessures et s'être remis sur pied quoi.
Ça c'est de la dépendance affective, non ?
Ouais. Après ça devient de la dépendance affective et là on rentre dans quelque chose de plus profond. Et puis vouloir mettre des choses sous le tapis, tôt ou tard ils finiront par grossir et vous revenir en pleine figure comme un boomerang. Donc du coup, se dire, j'ai ça maintenant, je suis pas prête à en parler, ok, mais il va falloir que je le fasse à un moment donné. Parce qu'aujourd'hui, ce petit truc-là que j'ai mis sous le tapis, aujourd'hui me pèse beaucoup et m'empêche même d'avancer.
Mais sur tous les plans, on devrait... Enfin, il y a de quoi faire, quoi. En fait, sur les plans sentimentaux, oui. Les plans perso, les plans professionnels, et je suis sûre que ça peut avoir des croisements... l'un l'autre, genre le plan pro ça marche pas, donc le plan affectif ça déconne, etc.
En fait, il n'y a pas de cloison.
Oui.
En fait, tout est interdépendant. Si t'as une vie heureuse sentimentalement, tu seras un peu plus propice à avoir une vie professionnelle épanouie. Mmh. Et inversement. Et s'il y a quelque chose qui est enrayé dans une partie de ta vie... elle peut avoir des répercussions sur ta vie personnelle si c'est dans le côté professionnel et inversement. Mmh. Donc du coup, c'est vrai de se dire, garder un équilibre. Toujours garder un équilibre, mais cet équilibre, tu peux l'avoir que si tu as le recul nécessaire sur toi. Moi, j'aurais juste envie de rajouter, peut-être pour les personnes qui sont jamais satisfaites, en fait, d'elles-mêmes ou de ce qu'elles ont dans la vie, c'est de savoir que quand on a un objectif particulier, on a un point A, un point B, un point C. Le point C étant l'objectif. Le point 1 étant notre place actuelle et le point B, mi-chemin entre notre objectif et ce qu'on a déjà réalisé. Et déjà, c'est de pouvoir accepter, pouvoir être satisfaite de ce qu'on a déjà accompli. Parce que si on attend le point C pour être satisfaite, le problème c'est qu'une fois arrivé au point C, on aura mis peut-être un certain temps et on n'aura même plus cette satisfaction d'être arrivé à ce point C. Et puis quand on a un point C, on a d'autres objectifs qui vont naître. Et puis du coup, jusqu'au prochain point, en fait, tu ne seras pas heureuse, pas satisfaite de ce que tu as obtenu. Donc, apprenez aussi à être satisfait de ce que vous avez, de ce que vous avez mis en place, parce que ça, c'est des victoires. Ça, ouais. C'est une réussite.
D'être contente qu'on a déjà accompli. Vraiment.
Voilà, ça, c'est une réussite. Je dirais que c'est la réussite par excellence.
Il y a une tendance, c'est bien ou pas, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de monde qui rêve d'être riche. Mmh. D'avoir une grosse voiture, d'avoir une grosse maison, d'avoir un grand appart. Et moi, je me dis, mais ok, c'est la fortune qui les anime, mais est-ce que ça nous anime vraiment ou c'est le bien matériel pour cacher quelque chose ou... Enfin, moi, c'est propre à chacun. Hein. Il y en a qui aiment l'argent, mais il y en a qui. Ce sentiment de sécurité, mais. Ou de montrer aux gens qu'ils ont réussi.
Déjà, faire les choses pour les autres, ça n'a jamais été bon. Donc déjà, là, on prend une mauvaise piste, un mauvais chemin, il faut arrêter. Faut jamais faire plaisir aux autres, faut se faire plaisir soi-même. Si ton plaisir, c'est d'avoir beaucoup d'argent et une belle bagnole, j'ai envie de te dire,
oui.
Super.
Mais
vas-y,
c'est pour montrer aux voisins mais que non. T'as une belle voiture.
Mais non.
Ça, c'est un truc qui anime beaucoup de monde.
Oui. Mais c'est la jalousie, l'envie, et puis le fait qu'on ne soit pas content de ce qu'on a.
Mm-hmm.
On veut toujours plus parce que, encore en plus... Encore plus en ces derniers temps, c'est que la télé-réalité fait aussi que et les réseaux sociaux
oui,
font
Instagram,
que tout est basé sur le visuel et beaucoup de personnes disent sur leur compte voilà on vous montre le meilleur mais on vous montre quelquefois le pire parce que ça fait partie aussi de la vie. Ok, on a une belle bagnole mais mon mari est malade, ma fille est tombée ou je sais pas enfin voilà.
Oui, la réalité est décrochée en fait.
La réalité est décrochée et on vous montre que ce qu'on a envie de montrer.
Mais ils disent que même après 30 minutes sur Instagram, t'as un syndrome de dépression.
Bah ça dépend pour qui. Maintenant, si t'es une personne qui est complètement HS moralement, physiquement, et puis qui voit que ça, bah effectivement, c'est pas ton...
voyage,
voilà. Là, dans ces cas-là, je te dis, fais une pause. Fais une pause Instagram, une pause Snap, une pause tout ce que tu veux. Mais fais une pause et va lire. Va lire des bouquins qui peuvent t'enrichir et qui peuvent aussi t'apporter certaines choses pour te développer. Et pour développer ton business, si t'en as un.
Et toi, t'as un livre préféré dans le développement personnel ou dans le business ?
Alors, le premier que j'ai lu, celui qui m'a fait démarrer tout, en fait, c'est L'Alchimiste, ouais, de Paulo Coelho. Et là, tu reviens aux sources, parce que là, on parlait effectivement de belles maisons, d'une belle réussite professionnelle. Et en fait, le mec, il se rend compte qu'il n'est pas heureux. Et effectivement, qu'est-ce que c'est que d'être heureux ? On n'est pas heureux 365 jours dans l'année. C'est pas possible. Ou alors, celui qui te dit que oui, c'est pas vrai, il ment. Maintenant, tu peux être heureux tous les jours un petit peu. Le bonheur, c'est pas quelque chose de linéaire et d'équilibré tout le temps. Voilà.
C'est un peu une philosophie, être heureux.
Bah oui, de toute manière.
Voilà, ça dépend le regard qu'on a sur ce qu'on vit.
C'est ça. Et aujourd'hui, mon travail, c'est de pouvoir aider les gens à modifier leur vision des choses, leur vision de la vie à travers leurs filtres qu'ils portent, ou leurs croyances limitantes ou schémas répétitifs.
Et on en a quand même pas mal des schémas répétitifs. Enfin, on
voit... Tous ? Mais c'est naturel. Ouais, c'est naturel, c'est humain. À partir du moment où un schéma répétitif vous empêche d'avancer, ça devient problématique. Ouais, et là, soit vous vous aidez comme moi j'ai pu le faire pendant un temps. Hein, le développement personnel, ça m'a beaucoup aidée. Mais j'ai été limitée puisque je n'avais pas suffisamment de recul sur ma propre vie pour pouvoir me dire, bon, bah voilà, là c'est bon, je vais passer un cap. Alors j'ai dû me faire aider.
Mais c'est comme quand tu me disais, voilà. Tu dis les échecs me font avancer, oui, mais moi je n'ai pas conscience, tu vois.
C'est, mais bien sûr.
C'est toi qui m'as facilité. Enfin, c'est vrai que le poids des mots
est important.
Ouais, mais tout seul on s'en rend pas compte parce qu'on l'a dit tellement souvent. Mm-hmm. Même c'est notre croyance à nous. Donc ça que c'est aussi sympa d'avoir un avis d'expert et même pas de faire. On n'est pas obligé de faire des longues thérapies en fait. Des fois il y a des thérapies c'est en trois fois, c'est déjà, avancer énormément.
Oui.
Des fois, je pense que même une fois parlé, des fois ça commence à dénouer des choses. Bien sûr, ça marche pas en une fois. Enfin, je pense.
Ça permet en fait, mon boulot, c'est de permettre aux gens de conscientiser certaines choses et de remonter à la surface tout ce qu'ils ont de subconscient ou d'inconscient. Et c'est vrai que ça leur parle, ça te fait réfléchir. Tu sors d'une séance. Ça te fait grave réfléchir, mais pas dans le mauvais sens où tu vas procrastiner, où tu vas te dire mais je suis nulle, je suis pas bien. Non, c'est de te dire ah ouais, là j'ai des pistes d'évolution possibles. C'est que si elle m'a parlé de ça, c'est que c'est justement possible de le changer, de le modifier. Sauf que toi, avec tout ce que tu portes et ton passé, ton expérience de vie, t'es pas capable de le faire toute seule. Mais c'est pas grave. Dans ce cas-là, effectivement. Moi, le minimum en parcours thérapeutique que je puisse faire en devis, c'est 3 mois. Mais pour avoir des bons résultats, pour avoir un bon suivi, parce que c'est toujours bien de suivre les gens. Et mes thérapies, c'est entre en espacement entre la première et la deuxième séance, c'est 21 jours minimum, et ça peut aller jusqu'à 5-6 semaines pour justement laisser permettre aux gens déjà d'engrammer tout ce qu'ils ont pu avoir chez moi, de se nourrir de tout ce que j'ai pu leur apporter, et après aussi de faire leur propre expérience de vie.
Moi, ça fait 3-4 séances. Mm. Ouais. Moi, ce que je disais, déjà en trois séances, on fait un travail énorme.
Oui.
Et même, je sais que ça fait bouger un peu les énergies en nous aussi.
Après, l'idée, c'est de rééquilibrer tout le reste, d'équilibrer sa partie féminine et sa partie masculine. Et puis aussi, si tu viens avec un but précis, ou alors si tu n'as pas d'objectif particulier, on peut en mettre en place pour que justement tu puisses aussi avoir un recul. Se dire, voilà, je suis partie de là, aujourd'hui j'ai ça, super quoi. Maintenant je veux avoir ça et je vais continuer à travailler.
Donc il n'y a jamais des gens qui sont venus et qui ont dit ah ouais, ça fait un peu peur en fait, qui ont changé d'avis en mode.
Ah si, il y a des personnes qui viennent en consultation et c'est pour ça que je fais une consultation au préalable. C'est justement pour savoir un peu si les personnes sont prêtes à travailler ou pas. Il m'est arrivé de refuser des personnes.
Ah oui ?
Oui. Parce qu'elle n'était pas prête, parce que financièrement, à faire une thérapie, c'est aussi sur le plan financier. Oui. C'est de se dire, si la personne a les ric-rac au niveau financier, je ne vais pas encore la lancer dans un truc, Mais je peux lui apporter des pistes de développement. On peut en discuter en dehors si jamais elle a une ou l'autre question. Je peux l'aiguiller. Bon, alors, c'est sûr que je ne ferai pas le même travail que pour quelqu'un qui paye, mais... Je pars du principe où il ne faut pas que je laisse cette personne comme ça dans le vent.
Oui.
Et puis, j'adapte aussi mes tarifs je fais moins 20% de ce que je fais pour les personnes qui sont justement au chômage ou qui sont en difficulté financière. Je fais moins 20% sur tous mes tarifs. Donc voilà, si ça peut leur permettre d'avancer un peu quand même, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'après, il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à travailler.
Des fois, quand une boîte ne marche pas, investir te permet d'avoir plus d'argent après. Donc je me dis, si quelqu'un il crée une entreprise et qu'il n'arrive pas à atteindre ses buts et qu'il prend cet argent pour investir en lui, après il y aura des retours en fait.
Ah ben clairement, mais c'est ce qu'on a fait avec Sidimen, hein, notre salon de coiffure. On n'avait rien et puis ben, il fallait qu'on fasse un communiqué de presse pour justement dire à tout le monde entier, bon j'exagère, mais qu'on existe et tout ce qu'on fait. Et ça nous a coûté un peu d'argent. Mais du coup, 5 mois plus tard, on était rentable, on était au point mort. Donc tout ce qui rentre est égal tout ce qui sort. Et ça, d'avoir investi à ce moment-là, alors qu'on était hyper compressé par la banque et tout, et le côté financier, bah voilà, on a commencé avec 0 client. Hein. On est parti de rien. Et aujourd'hui, se dire qu'on fait un super chiffre et que voilà, on s'est dit que cet investissement-là, il a été utile. Alors après, il ne faut pas faire n'importe quel genre d'investissement, hein, voilà. Mais oui, effectivement, je n'avais pas d'argent quand j'ai fait ma thérapie. Je me suis toujours débrouillée pour avoir suffisamment pour pouvoir aller à mes séances. Toujours.
En fait, voilà, c'est, je me dis, tu investis en toi, tu auras retour sur investissement.
Ça, de toute manière.
Voilà. Donc, faut pas, enfin, pas que ce soit un frein aussi l'argent.
Mais après, pas mal de personnes... Enfin, quand on a envie de se donner les moyens, on se donne les moyens. Peu importe. Moi, j'étais prête à aller, en plus de mon travail, de ma boîte chez Sidimen, hein, pour me former... j'étais même prête à aller travailler quelque part d'autre pour pouvoir générer de l'argent. J'étais prête à le faire. Mais et pour moi, il n'y avait pas de honte parce que c'est normal. Enfin, je ne vais pas m'arrêter à un problème financier. Je vais pas, c'est pas le problème financier qui va m'arrêter dans ce que j'ai envie d'avoir.
C'est ça. Et il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas se lancer en disant « Ouais, mais je gagne moins d'argent. Ouais. »
Bon, après, c'est souvent des excuses aussi qu'on se trouve pour ne pas avancer. Mais après, ça, c'est libre à chacun.
Oui,
moi, j'accepte.
Sûr.
Tu n'as pas suffisamment pour pouvoir te former et tout. Bah super, mais alors dans ce cas-là, je veux pas t'entendre te plaindre, quoi. Ou alors vraiment, donne-toi les moyens. Et les moyens, on en a.
Oui, que ce soit pas...
On est plein de ressources.
Voilà, pas que financières.
Oui, on a plein de ressources et voilà. Ou alors s'autofinancer. Enfin voilà, à un moment donné, il y a plein de choses. Il y a plein de choses à mettre en place et rien n'est impossible.
Oui, on peut atteindre nos buts. C'est pas grave, les échecs, ça nous remet dans le chemin qu'on doit aller. Si on doit pas... Enfin voilà. On en tire quelque chose de positif et on avance. En fait, c'est vraiment le regard quoi, qu'on a dessus. Enfin.
Là, si on avait continué dans un état négatif avec ma sœur, notamment sur Sidimen, on aurait fermé effectivement 3 mois après l'ouverture. Et puis, on serait certainement retourné en salarié. Ou alors, voilà, on aurait continué dans notre voie, je ne sais pas. Mais c'est vrai que si on s'était arrêté à ça, à l'aspect financier des choses, on aurait arrêté. Donc, du coup, c'est vrai qu'on s'est dit, mais attends, non, on n'a pas créé tout ça. Et puis après, il faut dire, tout ce que les gens ne savent pas, c'est que 3 ans auparavant, avant l'ouverture du salon, nous, on avait bossé. On a bossé sur notre projet. Donc, quand on arrivait pour ouvrir, on avait calculé tout ça, tous les risques, etc. Sauf qu'il y a des risques qui sont quand même imprévus et voilà. Et on ne s'est pas démené pour rien.
Il y a plein de facteurs qui font qu'on abandonne aussi des choses. Ça peut être la banque aussi qu'on n'arrive plus à payer.
La banque, ça a été le cas. Nous, si on voulait arrêter, c'était justement à cause de la banque. Hein, puisqu'elle nous faisait comprendre qu'elle nous avait financé, ok, mais jusqu'à un certain point. Oui, mais en fait... Et puis après, c'est aussi à nous de montrer qu'on y croit à notre projet et que malgré tout, on y est, on y reste et on va faire le meilleur. Et puis, on rassure. Donc, nous, notre banquier, c'était tous les jours qu'on l'avait au téléphone. Hein. Tous les jours.
La banque, ça revient souvent chez les entrepreneurs.
Ouais, mais la banque fait peur.
Ouais.
Parce que la banque a le droit et le pouvoir de pouvoir fermer votre entreprise. C'est-à-dire vous dire, c'est bon, je ferme les vannes et puis ciao, quoi. Alors que non. Nous, on a pris notre banque comme un collaborateur, un partenariat. Ils nous ont financés. On doit rembourser quelque chose, ok, on le fait, puisqu'on a toujours remboursé par contre nos échéances. Mais il n'y avait plus cette confiance, puisqu'on partait avec un déficit. Hein, on a ouvert avec 3 mois de retard, donc tout ce qu'on avait apporté en apport en compte courant était parti, quoi. Donc du coup, l'idée, c'était de se dire, là, c'est à nous de leur montrer qu'il faut qu'ils aient confiance en nous. Et on a tout mis en œuvre pour que ça puisse se faire.
Aborder ça très positivement.
Ouais, Et puis la banque, ça n'a jamais été chez nous, en tout cas, un frein ou quelqu'un qui nous faisait peur. Mmh. On se dit, on est des partenaires. Et il faut voir les banques comme un partenaire. Vous se dire, bah voilà, elle a des comptes à rendre, notre bancaire, elle a des comptes à rendre, elle a une hiérarchie. Nous, on a aussi des comptes à rendre à plein de monde. Mmh. Donc, on se met à sa place, on comprend. Donc, si on rentre dans un conflit, bah, qu'est-ce qu'on risque ? C'est qu'elle se braque, on se braque, et puis on n'avance plus. Et puis là, c'est ciao votre entreprise. Ou alors, on décide de faire, de trouver des compromis, des concessions. Bah voilà, aujourd'hui, on vous dit qu'il y a tant et tant qui va rentrer. Il y a tant et tant qui va rentrer. Là, pour décembre, on annonçait un chiffre. Alors, avec tout ce qui s'était passé avec les grèves, les gilets jaunes, enfin voilà, on avait commencé le mois de décembre un petit peu en mode bancal, en se disant « Oh là là, comment on va finir ?» J'ai annoncé un chiffre à ma sœur. Ma sœur me dit « Mais jamais de la vie. Mais t'inquiète, on va le faire. On va le faire. » J'ai annoncé ça à la banquière pour que ce soit acté dans les énergies. C'est-à-dire « Voilà. » Et en janvier, elle nous a dit « Waouh, quoi. Vous l'avez fait. » Ouais. On a fait même plus que le chiffre annoncé.
Mais genre, quand tu dis acté dans les énergies, c'est-à-dire à l'oral ?
Ouais, ou à l'écrit.
Ouais, tu l'écris ?
Ouais. Si ça reste dans la tête, ça reste bloqué. Mm-hmm. Faut écrire ou dire.
D'accord.
Tu l'annonces clairement.
Je note ça dans mon calepin.
Voilà.
Écrire.
Ah ouais, tu... Quand tu veux quelque chose, faut l'écrire ou l'annoncer, parce que du coup, ça acte les choses. Ça te permet, une fois qu'elles sont dites, les choses, de pouvoir te dire, bah voilà, c'est bon, allez.
On va tout faire.
Y'a là, on y va.
Voilà.
Voilà.
Ouais, objectif, quoi.
Objectif, annoncé clairement, précis, voilà.
Ok, donc ça c'est un plan pour toutes les personnes qui...
Ah ouais, annoncer clairement ce que vous voulez. Tu veux 3000 euros de chiffre d'affaires par mois ? Ok, tu l'annonces.
Moi je le fais, mais pour l'instant ça n'a pas marché. Je sais pas.
Alors, ça n'a pas marché, si c'est dans ta tête et pas dans tes tripes...
J'ai écrit, j'ai fait un chèque.
Oui, mais si c'est dans ta tête et pas dans tes tripes...
C'est peut-être pas dans mes tripes.
Pas encore, il y a encore des petites peurs là.
Ouais, c'est d'avoir de l'argent. Non, mais si, bon, non, mais je n'ai pas peur d'avoir d'argent, moi.
Et après, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour avoir ces 3000 euros ?
J'ai mis 5. Non, j'ai mis 4 au mois d'avril.
4 au mois d'avril ?
Non, 4 au mois de mars, pardon.
Au mois de mars, ok. Bon.
Là, il faut se bouger le cul, meuf, parce que...
Non, mais après, il ne faut pas se mettre des objectifs trop hauts, hein. Parce que le risque que tu peux avoir, c'est déjà, tu te frustres, ouais, tu te mets la pression inutile, donc là, tu vas te dire, ouais, il me faut du fric, il me faut du fric. Parce qu'il faut que j'annonce, non.
Ouais, ça dépend de l'énergie aussi que tu mets dedans.
Bah oui, mais il faut y aller palier par palier. Moi, là, je me disais qu'il fallait que je gagne 2000 euros par mois. Mm. Bah, j'y suis presque. Mais je me laisse jusqu'à juin.
Ouais, ouais, mais ce que je croyais que j'aurais un bon mois en mars, en février. C'est les aléas de la vie. Hein. C'est vrai que ça frustre.
Bah oui, ça frustre parce que pour toi, tu n'as pas atteint l'objectif. Donc, tu te dis quoi ? Ben, en fait, t'es nul, t'as pas mis tout ce qu'il fallait. Mais non, c'est juste ton objectif qui est trop haut. Mm-mm. Mets-le un tout petit peu plus bas. Tu vas l'atteindre. Et puis, une fois atteint, tu diras « Waouh, maintenant, j'ai plus de visibilité et j'ai déjà plus de bagages pour arriver aux 5000 ou aux 4000. »
C'est comme j'ai un ami qui m'a... Là, j'ai fait un article dessus. Qui m'a dit je suis thérapeute. Je ferme ma boîte parce que ça fait 5 ans que je l'ai. Un ami m'a dit qu'au bout de 3 ans, il faut être rentable. Donc, comme je suis pas rentable, eh ben, j'arrête. Et après, je me dis, ça dépend ses objectifs à lui, en fait. Quels sont ses objectifs de base ? Enfin, il y a tellement de...
Bon, alors déjà, s'il a ouvert 5 ans et qu'il ne gagnait pas sa vie en 5 ans, il y a peut-être quelque chose à revoir aussi.
Ouais, grave.
Parce qu'après, ce n'est pas parce qu'on fait un métier qu'on est forcément bien dans ce métier. Donc, peut-être qu'il a d'autres ressources. Il faudrait peut-être qu'il revoie les bases de son entreprise.
Même qu'il veut aider, en fait. De se spécialiser, je ne sais pas. Tu sais, parce que c'est genre, je veux aider, tout le monde peut venir chez moi. Et ça ne marche pas. C'est comme on a dit au début, il faut avoir... le profil type de client qu'on veut aider.
Bah, vouloir plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui ou plaire à personne, puisque finalement, c'est tellement vaste que du coup, personne s'y retrouve et tout le monde s'y retrouve à la fois. Donc, il faut se spécialiser. Enfin, se spécialiser. Attention, parce que ce mot est aussi un peu... Mais il faut faire ce que t'aimes faire, quoi. Mmh. Et avec les gens, il faut définir ta cible idéale, ton client idéal.
Ouais, c'est comme, voilà, moi je sais qu'il était très bon en thérapie de couple, moi j'aurais dit, mais il fait que de la...
Mais oui.
Occupe-toi de thérapie de couple, en fait.
Mais c'est ça. Mais prends exactement.
C'est ton sujet, pourquoi tu t'embêtes à vouloir aborder d'autres personnes ? Non, je suis thérapeute de couple, voilà, nanana.
Mais bien sûr, et tu développes à fond, et tu peux en vivre.
Comme j'ai dit pour ma boîte, moi maintenant, je veux... mon profil client, c'est des gens qui ont la niaque et qui savent qu'entreprendre, ben, c'est pas rose tous les jours, et que... Ils seront pas à Bali en train de siroter un mojito dans 6 mois. Non, je veux des gens qui aient conscience en fait des choses et que ça soit des battants, des gens qui ne vont pas perdre la face face à un cadeau mal emballé ou un chemin sinueux. Et ouais, je suis déterminée à avoir des gens qui ont une vision entrepreneuriale. Ok, je me dis que c'est ça mon type de client. Un peu comme moi, un peu badass.
Mais qui te ressemble.
Voilà.
Et comme ma clientèle qui me ressemble. Et donc du coup, c'est très bien. Et c'est génial. Et c'est avec ce genre de personnes que tu vas t'éclater dans ton boulot.
Et moi, je l'ai que capté quand j'ai eu un rendez-vous pro avec un pote. Et il m'a dit, mais c'est là-dessus que tu dois parler en fait. C'est ça ta communication à toi. Et là, je me suis dit, ah, il a raison. Et j'ai capté ça qu'il y a une semaine.
Mais les personnes ont besoin d'être avec quelqu'un qui les ressemble. Si moi, je vais voir, je sais pas, je suis quelqu'un de dynamique et qui est un peu, pas pète sec, mais je dis les choses assez franchement. C'est vrai que si quelqu'un n'a pas l'habitude de ce genre de choses et est plutôt très lisse, etc., bon, elle va peut-être avoir l'impression de se sentir agressée ou de se sentir un peu malmenée, alors que c'est pas du tout le but. Hein. Dans l'accompagnement, moi, je prends le parti pris de tout dire. Voilà, tout ce qui doit être dit sera dit et tout ce qui doit être fait, qu'il soit fait. Mais du coup, j'ai une clientèle qui me ressemble.
Ouais, on résonne de toute façon avec les personnes.
Mais bien sûr, mais bien sûr.
Même nos amis.
Et c'est comme ça que tu vas t'éclater. Alors, ma mère avait un peu peur parce qu'elle me disait « Oui, mais tu rencontres des personnes qui n'ont que des problèmes. » Ah oui, mais après, quand tu prends le recul nécessaire, finalement, c'est plus des problèmes qu'ils ont. C'est juste des choses mal accordées et qu'il faut réaccorder, c'est tout. Et finalement, je me sens utile. Et c'est ça, de se sentir utile, valorisé dans ce qu'on fait, aimer le travail qu'on fait, parce que ça reste quand même un travail, et surtout gagner de l'argent avec ce travail-là. Parce que t'as pas ouvert une association à but non lucratif. Et même une association à but lucratif a besoin d'argent pour fonctionner. Donc du coup, tu travailles pas pour la gloire, hein, tu travailles aussi pour vivre. Et si tu n'as pas ces choses-là, et ben c'est qu'il y a un loupé quelque part. Mais c'est pas grave, tu peux rebondir et puis tu peux modifier les choses. Rien n'est irréversible dans la vie, à part la mort.
Oui.
Voilà. Donc ça permet aussi de dédramatiser certaines choses parfois. Ouais, quand je l'annonce comme ça, débutant en blanc.
J'ai rien à dire de plus.
Voilà. Donc là, à part la mort qui est irréversible, effectivement, le reste l'est.
Ouais.
Même pour les personnes qui sont malades, hein. Faut se donner du courage, faut se dire que rien n'arrive par hasard, c'est quelque chose, si le corps s'arrête à un moment donné, c'est de se dire, t'as pas entendu tous les signaux d'alarme, ta petite voix, tu l'as pas entendue, aujourd'hui ton corps a mis un stop. Et on ne dissocie pas l'esprit du corps, l'un ne va pas sans l'autre.
Pour finir, j'ai une question que j'aime bien poser, c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné ?
Oula, le meilleur conseil qu'on m'a donné, justement, je pense que je garderai ce message de ma prof. De physique-chimie en seconde qui m'a dit, mais tu sais, parce qu'elle avait fait une thèse et j'étais fascinée par les gens qui faisaient tant de travail, j'étais hyper fascinée, j'avais envie de faire comme elle. Et à l'époque, je ne me voyais pas faire ce genre de choses, je m'en sentais incapable. Et elle me disait, mais Samia, tu sais, si tu as vraiment envie de faire quelque chose, peu importe le temps que ça prendra, 1 an, 10 ans, 20 ans, si tu veux le faire et tu voudras toujours le faire à cette période-là, tu y arriveras. Et je pense qu'effectivement, il ne faut pas laisser tomber. Il ne faut pas se forcer à faire les choses. Mais si tu le sens dans tes tripes...
Il faut le faire. Il ne faut pas regarder à travers le prisme.
Mais sinon, tout ce que tu risques de faire, c'est d'avoir des regrets un jour, de dire, moi, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas osé le faire. Mais vas-y, fais-le. De toute façon, qu'est-ce qui peut t'arriver ?
Rien. Les gens, ils sautent de ta gueule. Waouh, trop bien. Ça, c'est vrai. C'est ce qu'il disait David Laroche. Au pire, t'essayes, on saute ta gueule. Et alors, t'en fous ? C'est-à-dire que s'ils te foutent ta gueule, c'est des gens en fait qui ont même pas...
Ouais, mais tu pourras leur dire aussi que toi, t'as fait ce que eux ils n'ont pas osé ou n'oseraient pas faire.
C'est ça, des gens, ouais.
Et puis ça remet tout le monde à sa place.
C'est tout le temps... On vit trop à travers nos peurs, nos croyances, le regard des autres, en fait, et je trouve que ça nous limite tellement, en fait. Et nos schémas, il y a beaucoup de trucs à bosser, et j'invite tout le monde à rencontrer des personnes comme toi.
Merci.
Ouais, c'est vrai, et qui... C'est super important de pas avoir peur de faire des thérapies. Et je sais que quand je vivais à Paris, ils ont tous un coach de vie ou un thérapeute ou un psychiatre ou un psychologue. Et ils l'assument vraiment. Ils disent « Ouais ». Et à Strasbourg, les petites provinces, etc., je trouve qu'on a un peu peur de ça, d'être catégorisé.
Mm-hmm.
En mode, je suis chez un thérapeute, Hein, c'est vrai que t'es un peu bête ou oh, t'as pas les neurones à leur place. Enfin.
Non, les gens sont pas malades quand ils viennent me voir.
Oui,
alors, il peut y avoir des personnes qui sont atteintes de maladies qui viennent me voir. Mais pour moi, je les vois. C'est pour ça que je ne dis pas patient et je dis client, parce que pour moi, ça reste une prestation de service. Ce sont des clients, parce que pour moi, des patients, ce sont les malades. Et moi, je ne reçois pas de malades. Ils ne sont pas malades de la tête, ils ont juste une problématique qu'ils souhaitent résolver. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Bah, super, vous avez frappé à la bonne porte.
Et en fait, juste. 99% des gens devraient tester. Non, mais vrai, devraient tester une thérapie. Au moins une fois. Une heure et demie. On s'en fout.
Alors moi, la thérapie sur blocages émotionnels, c'est 2 heures. Mais effectivement, la consultation dure 1 heure. Mais oui, on peut faire déjà un bilan. Rien qu'avec 1 heure de temps, je peux déjà te dire tous les aspects qu'il y a à travailler peut-être chez toi ou à faire évoluer. Tout ce que tu as n'est pas à jeter. Au contraire. Il y a des choses à garder, il y a des choses à faire évoluer. Mais c'est ce qui fait que tu es la personne aujourd'hui. Hein.
Oui.
Voilà, tes expériences de vie font que tu es Priscilla.
Et que je parle de l'échec.
Et voilà. Et peut-être qu'un jour, tu parleras même plus d'échec, tu parleras d'autre chose.
Ouais, je sais pas.
Ça va peut-être évoluer, qui sait.
Peut-être, j'aimerais bien un jour même faire, je sais pas, une conférence sur l'échec. Ou un livre, ça me plaira bien, un livre sur l'échec. J'en dirai pas plus. Voilà. Donc, ce podcast est terminé. Merci d'avoir participé.
Merci d'avoir pris du temps pour moi et m'écouter aussi.
Ben de rien, c'est normal. Ça me fait plaisir parce que je voulais faire ça avec un thérapeute. Donc, je suis contente d'être tombée sur toi.
Et moi, je te remercie de m'avoir choisi.
Ben de rien. Donc, je vous dis à bientôt dans un nouvel article et aussi dans un nouveau podcast. Voilà, je vous fais des bisous.